Ce texte que nous venons de lire, que Élisabeth vient de lire, vous le connaissez. Hein, vous l'avez dû l'entendre plusieurs fois. Cet été, un ami, qui n'est pas croyant particulièrement, enfin c'est ce qu'il dit, me demanda, « Dis-moi, Redouane, depuis quand es-tu pasteur ?» Je dis, « Je suis pasteur depuis le 1er juillet 1986. » Il dit, ça fait longtemps. Ben, je lui dis oui. Il dit, et t'as pas l'impression de tourner en rond, toujours de lire les mêmes textes, de commenter toujours les mêmes textes? Est-ce que t'as pas le sentiment que ceux qui écoutent et qui étaient là bien avant toi ont le sentiment de toujours rassasier, ressasser la même chose? Je lui dis, je sais pas, j'ai pas le sentiment. Enfin, moi, personnellement, je vis assez bien, je n'ai pas le sentiment de radoter et je trouve toujours de la nouveauté. Il dit, attends. Et il m'offre un livre qui s'intitule « Sanko en Zen ». Alors de quoi il s'agit? J'ai ouvert le livre et j'ai trouvé un petit passage. Un moine bouddhiste demande un jour à Chao Chu. Qui est Chao Chu? Et Chao Chu répondit, porte est, porte ouest, porte sud, porte nord. Vous voyez ce genre de dialogue étrange entre un maître et son disciple est couramment appelé Koan, dans le bouddhisme zen, Koan, K-O-A. À accent N. Les koans sont des énigmes fameuses de la tradition zen. Et il y en a aussi dans l'islam, la partie soufie mystique de l'islam, le soufisme. Et il y en a plein dans les évangiles, si nous voulons bien les voir. Ce sont des questions qui restent en suspens, des questions déstabilisantes qui sont posées et qui restent posées. Et s'il y a des koans au sens précis de cette formulation, c'est parce que nous sommes nous-mêmes koans. Question qui semble dans le bouddhisme être pleine d'une certaine étrangeté absurde. Cette question, elle est posée par un maître zen à son élève afin de l'aider, par le biais même de cette absurdité, à appréhender la réalité. Vous voyez, c'est une sorte d'énigme irrationnel, paradoxal, insolite, que l'on installe dans son esprit et qu'on va laisser mûrir jusqu'à l'apparition de l'évidence. Et le raisonnement est banni de ce type d'approche. Ainsi, à la question qui est posée à Chao Chu, nous emmène au-delà d'une définition trop simple de l'identité. Qui es-tu? Dans la Bible, on dit « qui es-tu ?» On dit toujours « je suis fils d'eux ». C'est une filiation. Et là, le Koan, le maître zen, pose la question à Chao Chu « qui es-tu ?» La sécurité de l'identité est un bien fondamental de l'individu pour construire son identité. Cela induit la construction d'un rempart psychologique. Et l'individu est parfois barricadé et il se coupe de toute véritable communication avec autrui. On le voit, c'est-à-dire j'ai mon identité, j'ai ma culture, tu as ta culture et ce n'est pas compatible. C'est-à-dire, c'est cette question qui va interroger l'identité de Chao Chu. Chao Chu a aménagé de nombreuses ouvertures dans son enceinte. Chao Chu, c'est porte est, porte nord, porte ouest, porte sud. C'est-à-dire que Chao Chu est totalement ouvert. Il est transparent. On peut l'aborder sous tous les angles des quatre points cardinaux. Rien n'est caché en lui. Il n'y a aucune barrière pour venir à lui. Pas d'intérieur ni d'extérieur. Chao Chu est pur. transparence. Voyez, ce qui peut paraître un dialogue complètement absurde nous fait entrer dans une autre dimension sur ce qu'est l'identité. Si on vous demande qui es-tu, vous savez, il y a plusieurs stades. Il y a votre identité, ce que vous pensez être, la manière dont les autres vous voient. Vous avez votre identité familiale, vous avez votre identité professionnelle. Et puis si par malheur vous allez à l'hôpital, vous avez votre identité en tant que patient. C'est-à-dire on se moque d'où vous venez, ce qui vous êtes. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est votre parcours, votre historique et votre maladie. Vous voyez, les identités se superposent et pourtant c'est de la même personne dont il s'agit. Qui es-tu ? Les Kohans débutent fréquemment sur une question banale à laquelle une réponse classique est possible. Qui es-tu, Redouane Esbanti, né au Maroc, pasteur de l'église française de Saint-Gall. Dans ce cas, le Coran permet au maître, en fait, de vérifier le niveau d'éveil de son élève. Celui qui répond sur le même registre n'a pas encore progressé dans la voie. Une bonne réponse doit annuler la question selon deux procédés. Soit la question a été comprise sur un registre différent, soit la réponse est donnée dans un autre registre. Par exemple, le maître demande souvent au moine qui se présente devant lui « D'où viens-tu ?» Cette information triviale, en fait, n'intéresse pas le maître. Son objectif prioritaire est de nous conduire à l'éveil. Et nous devons donc transposer son interrogation en rapprochant notre pensée de celle du maître. Nous pourrions interpréter sa question ainsi. Où en es-tu de la connaissance du zen ? Autre exemple que j'ai trouvé dans ce livre. Quel est ton visage originel avant la naissance de tes parents ? Drôle de question, hein ? Quel est ton visage originel avant la naissance de tes parents ? J'éteins la lumière, où va-t-elle ? Une illusion peut-elle exister ? Dans d'autres cultures, on trouvera des termes rapprochés mais jamais équivalents au Coran. En français, on dit aphorisme, énigme, sentence, oracle. En hébreu, on dit machal. Devinette. À bien des égards, le dialogue entre Jésus et Pierre de ce dimanche dans l'évangile de Matthieu a des airs de famille avec un Coran bouddhiste. Je resitue. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La première question de Jésus est étrange. Pour demander l'opinion de lui les foules. C'est un peu étrange. Est-ce qu'il doute de son identité ? Serait-il attaché à son image de marketing, comme on dirait aujourd'hui ? Les foules en sauraient-elles plus sur lui-même ? Et pourquoi pas ? Les disciples rapportent des réponses stéréotypées. Les uns disent « tu es Jean-Baptiste », d'autres « Élie », d'autres « un prophète ». Comme si Jésus était un autre, obligé de se couler dans un moule déjà réalisé dans l'histoire. Alors vient la deuxième question qui est plus personnelle. Et vous ? On devine l'embarras des douze, à l'impétuosité avec laquelle Simon se jette à l'eau. Ah, il est toujours impulsif. Simon, tu es le Christ. Mais bizarrement, à la manière des Cohens, Jésus ne valide pas directement cette réponse et renvoie Simon à sa propre identité. Une identité qui est en train de changer. Simon, maintenant tu es Pierre. C'est étrange, vous voyez ? Si on te disait, Élisabeth, maintenant tu es Catherine, ça ferait bizarre. Tu viens de répondre de manière juste et l'autre te change ton prénom. C'est étrange. Plus encore, en fait, il ne comprend rien à son affirmation de Jésus, Simon, puisque pour lui, un Christ ne peut pas être soumis à l'intolérable. L'humiliation de la passion, de l'assassinat par les pouvoirs juifs, là, il devient Satan. Jésus lui dira à ce fameux Simon, « Pierre, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Au cours de la même journée, Simon passe par trois identités. Simon, Simon-Pierre, puis Satan. En Afrique, lorsqu'un adulte demande le baptême, il a déjà reçu un prénom traditionnel à sa naissance. Et il choisit alors un prénom chrétien sous lequel il sera baptisé, qui s'ajoutera à son premier prénom. Cette tradition, ce n'est pas seulement en Afrique. En Corse, où j'étais cet été, pendant une petite semaine, eh ben les Corses, ils ont leur prénom que les Français connaissent, et puis ils ont un prénom que seuls les Corses connaissent. Nous avions loué un petit emplacement chez quelqu'un qui, selon les Français, s'appelait Valentin Fage. Et quand on cherchait l'endroit, on demandait Valentin Fage. Je ne connais pas. Et je me suis souvenu de son nom corse, Flor de Pino. Ah, il me dit, oui, c'est là-bas. Vous voyez, alors je ne sais pas si la même tradition existe dans le canton de Saint-Gall ou à Appenzell, de prénoms cachés. Chacun de nous devient ainsi Simon-Pierre, car le Christ est venu accomplir et non pas abolir, nous dit les Écritures. Et chacun sait également qu'il peut devenir Satan parce qu'il fait obstacle à la volonté du Christ. Voyez, on peut avoir plusieurs identités. Et l'ensemble de ce dialogue est sur le moment une énigme pour Simon. Il ne comprend pas le sens, il ne déchiffre pas ce qui lui est dit. Il devine seulement qu'il n'a pas fini de devenir lui-même. Et c'est en dialoguant avec Jésus qu'il va peu à peu découvrir la profondeur de son être, la complexité, ses ambivalences. Il y a deux questions. Il y a la question « Qui suis-je ?» et il y a la question que le Christ adresse à chacun d'entre nous. « Qui dis-tu que je suis ?» Il y a deux questions et il y a une seule réponse. C'est au moment où Simon répond en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » qu'il s'éveille en Pierre. Et ce jour-là, c'était une rude journée. Le matin, quand il prend son petit déjeuner, il s'appelle Simon. Un peu plus tard, il s'appelle Pierre. Et un peu plus tard, il s'appelle Satan. C'est ça la réalité. Nous sommes simultanément Simon, Pierre, Satan. Et il y a des moments où on est Satan, il y a des moments où on est Simon. Et Simon, c'est notre identité habituelle, sociale. Et puis il y a des moments où on est Pierre. Pierre, c'est notre identité profonde dans le Christ. Et dans la dynamique immanente de la vie humaine, ce « qui suis-je ?», le Christ vient nous croiser comme tout à l'heure. Il va croiser la barque en posant une nouvelle question. Il nous fait en fait éveiller. Et les Écritures nous éveillent à notre identité. voyez, ces deux identités dans ce récit nous donnent à réfléchir. La rencontre avec le Christ nous révèle pleinement à nous-mêmes, souvent de manière énigmatique, mieux que ne le feront jamais les tests de personnalité. Vous savez, on fait... Vous n'avez jamais vu ça dans les journaux, les revues ? Votre test de personnalité pour savoir qui vous êtes, est-ce que vous êtes un homme fort ou une femme faible, un homme soumis ou un dirigeant, ces tests de personnalité. Ou bien cette quête d'identité, certains passent des séances et des séances, ces jeunes psychanalystes allongés sur un divan. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Vers qui vais-je ? Le Christ nous révèle cette identité. C'est dans la rencontre, dans les Écritures, dans la rencontre de ce Verbe incarné que nous découvrons et nous nous éveillons à nous-mêmes, à notre identité. Alors, il ne faut pas se tromper, hein. Qui dis-tu que je suis ? Ben Seigneur, je dis ce que l'Église dit de toi. Je vais répéter le catéchisme. Ce n'est pas ce que je te demande, dit Jésus. Je ne te demande pas ce que dit de moi mon Église. Tout le monde le sait, pas la peine d'avoir la foi pour savoir ce que le Christ est pour l'Église. Il suffit de savoir lire. Je te demande ce que tu dis, toi, en t'engageant dans ta parole. Tu es aliéné dans un langage qui n'est pas le tien. Fais tomber les masques. Révèle-toi tel que tu es. Notre identité est donc toujours en mouvement, comme Jésus sur les routes de Galilée. Cette identité n'est jamais figée. Elle évolue en fonction des rencontres, des révélations qui nous sont adressées par le regard des autres. Et nous n'enfermons jamais quelqu'un, et nous premiers dans l'identité d'un moment, fut-elle glorieuse ou monstrueuse. C'est ça terrible. Il y a un tel qui vient habiter dans le village, et selon l'image que vous vous faites de lui, de l'identité, vous allez le condamner ou bien l'inclure dans la vie communautaire. Une identité n'est pas toujours figé. C'est tout le travail que font les aumôniers de prison face aux personnes qui sont enfermées là. Ce n'est pas une malédiction. Il y a un éveil dans la parole du Christ qui peut transformer toute vie. Si nous entretenons vivante la relation du dialogue et de communion avec le Christ, elle fera grandir en nous notre dignité d'enfant de Dieu. Le Christ ne désire rien d'autre que nous rendre à nous-mêmes. Un des initiateurs de la pensée chrétienne, Paul, a découvert quelle était son identité sur le chemin de... Le chemin de... Il y en a qu'un qui écoute, hein. Sur le chemin de Damas. C'est sur le chemin de Damas que Paul découvre qui il est, qui est le Christ. Simon, Pierre, Satan a su déchiffrer peu à peu pendant des années après la résurrection le Coran que Jésus lui avait soumis à Césarée de Philippe. Alors apprenons à notre tour à reconnaître dans les énigmes de notre parcours de vie son invitation à devenir nous-mêmes. Et ce nous-mêmes est toujours vivant et en évolution et changeant. Vous voyez, ce texte que vous avez entendu maintes et maintes fois a toujours quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Enfin, pour moi, ça reste une dynamique de foi, une dynamique dans la recherche, non pas du passé, mais du devenir, de la vie après la vie. C'est une joyeuse bonne nouvelle pour chacun de nous. Amen.